Des sous et des amants. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
François Soult, auteur de EDF, chronique d'un désastre inéluctable.
Il le cache un peu, mais c'est quelqu'un qui est très 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 bien informé, si j'ai bien compris. Alors, je me réjouis d'avance, moi, parce que 1er juillet 2004, les professionnels vont pouvoir enfin acheter leur électricité à EDF ou chez quelqu'un d'autre. Et puis le 1er juillet 2007, ça sera moi, et je vais probablement faire des économies, non ?
Chouette, oui, c'est une très bonne nouvelle, mais surtout pour les producteurs d'électricité et pas pour les consommateurs. C'est ce que j'ai essayé de dire dans ce livre. Qui a pour objet de dénoncer un processus négatif pour les consommateurs, pour les citoyens. On prétend que permettre à tout un chacun de faire jouer la concurrence pour se fournir en électricité va faire baisser les prix, parce que, de façon très logique, en tout cas c'est le dogme libéral qui le dit, la concurrence, ça permet aux producteurs d'être plus efficaces. Comme ils sont plus efficaces, ils ont moins de coûts, et ça se répercute par une baisse des tarifs. Ça, c'est la belle théorie, qui est parfois vraie, et qui est vraie dans des tas de secteurs de marchandises assez banalisés, mais qui est totalement fausse en électricité. Et c'est parce qu'elle est totalement fausse en électricité que ce qui nous attend demain et après-demain, 1er juillet 2004, vous le rappeliez, pour les professionnels, en gros 60% de la consommation d'électricité nationale, et puis après-demain, le 1er juillet 2007, pour monsieur et madame tout le monde, eh bien cette liberté de choix va se traduire par la liberté de payer plus cher son électricité.
Vous êtes quand même un peu pessimiste, non ? Enfin, je vois pas pourquoi l'électricité, ça marcherait pas.
Alors, ça marche pas pour des raisons techniques qui sont incontournables, qui sont ainsi. Et si les promoteurs de la libéralisation avaient bien retenu leur leçon d'économie de première année, ils le sauraient. D'ailleurs, ils le savent, mais ils font mine de l'ignorer. Et puis, tout ça est confirmé par l'observation des faits. C'est pas seulement des théories ou des appréhensions ou des angoisses. Alors, la raison pour laquelle ça marche pas, et elle est un peu technique, pardon, mais c'est essentiel et il faut le garder en tête. C'est que l'électricité, c'est pas un bien comme les autres. C'est pas une marchandise. La Cour de justice des communautés européennes a eu beau dire dans une décision que l'électricité est une marchandise. Non, ce n'est pas une marchandise comme les autres, parce qu'elle a plusieurs spécificités. Alors, elles sont pas très nombreuses, ces spécificités, mais elles sont vraiment importantes. La première d'entre elles, c'est que ça ne se stocke pas. On ne sait pas stocker les électrons. On sait le faire dans quelques piles, pour des usages très secondaire, mais ça coûte tellement cher de la stocker dans des piles qu'on ne peut pas le faire à échelle industrielle. Et comme elle se stocke pas, et qu'elle se transporte sur des réseaux, il faut en permanence équilibrer l'offre et la demande. C'est-à-dire la production d'électricité et la consommation doivent être exactement du même niveau. Parce que comme on ne peut pas consommer, il va falloir produire à chaque fois qu'une consommation est lancée. On peut même trouver cet exemple, c'est qu'en allumant l'ampoule qui est dans ma chambre en rentrant le soir, je vais peut-être déclencher une centrale nucléaire. Parce qu'il va falloir exactement au même moment, déclencher de la production. Et donc, cette obligation de maintenir l'offre et la demande en permanence sur le réseau, en font, sur le réseau électrique, en font une marchandise très très différente des autres, de telle sorte que le marché n'est pas le bon moyen de réguler l'offre et la demande. Et puis, la dernière caractéristique de l'électricité, c'est qu'elle se produit par des moyens de production qui sont gigantesques, où les économies d'échelle, ou les rendements d'échelle croissants, comme on dit dans le jargon économique, sont tels que plus c'est grand, plus c'est efficace. Et qu'on ne sait pas faire aujourd'hui de la production décentralisée qui soit viable économiquement. Peut-être que ce sera le cas demain. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, pour toutes ces raisons, confier au marché la régulation, c'est courir le risque que l'offre et la demande ne s'adaptent pas, et c'est courir le risque que dans le très court terme, les prix soient très volatiles. Et on l'a constaté. Il y a une bourse de l'électricité en France depuis 2 ans maintenant. Sur cette bourse, le mégawattheure, hein, qui est une quantité d'électricité donnée à un moment donné, est passé de quelques euros le mégawattheure à plusieurs centaines d'euros le mégawattheure quelques heures plus tard. Hein. Donc il y a une volatilité qui est totalement démente. C'est pas des augmentations de 20%, c'est des augmentations de milliers, de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de pourcents à la fois. Et ça, un consommateur, il ne sera pas capable de l'assumer ni de le supporter.
Alors je ne vois pas trop pourquoi on veut libéraliser, pourquoi on veut ouvrir si je ne vais pas payer moins cher.
Ça c'est une excellente remarque. Moi non plus, et c'est ce que j'essaye de dénoncer dans le bouquin. La seule réponse qu'on m'a faite quand je travaillais dans le secteur de l'énergie, et que je m'interrogeais, moi je suis allé travailler dans le secteur de l'énergie plein de bonne volonté, me disant chouette, on va pouvoir travailler dans un secteur où on va introduire davantage d'efficience et d'efficacité. Et puis en regardant les caractéristiques de l'électricité et tous les problèmes que pose la libéralisation, j'avais quelques inquiétudes. Et tous mes interlocuteurs avaient les mêmes inquiétudes, mais ils répondaient « c'est inéluctable ». C'est inéluctable parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça parce que des directives ont dit qu'il fallait y aller, et puisque ça a été dit, c'est trop tard, et puis c'est le sens de l'histoire, il faut libéraliser, on va pas rester au vieux monopole. Et donc c'est comme ça. Mais quel est l'avantage ? Ça fera baisser les prix. Et puis bien sûr que non. Tout de suite après, l'interlocuteur disait « mais non, effectivement, ça fait pas baisser les prix ». Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas seulement de la théorie, on l'a constaté. Au Royaume-Uni, qui a libéralisé au début des années 90, les prix n'ont pas baissé, ils ont même eu tendance à augmenter, parce que la libéralisation, ça nécessite des restructurations de secteurs qui sont coûteuses, des déséconomies d'échelle, paradoxalement. Ce qui fait que ça augmente les coûts de façon globale. Aux États-Unis, en Californie, mais pas seulement en Californie, hein, on l'a vu dans d'autres États américains, on l'a vu au Canada, on l'a vu en Australie, on l'a vu dans des pays peut-être moins développés, moins comparables, mais au Brésil, on l'a vu l'hiver dernier en Scandinavie, les prix augmentent, et ils augmentent fortement, ils peuvent même s'envoler, parce que là aussi il y a une raison technique. Le mégawattheure, ou la quantité d'électricité qui va permettre au réseau d'être en équilibre, parce que si le réseau n'est plus en équilibre, c'est coupure pour tout le monde. Ah, tout le monde est soigné, hein, on ne sait pas couper une petite zone, donc on coupe toute une région ou tout un pays. Eh bien, le producteur qui a ce mégawattheure-là disponible, il va le vendre au réseau pour que le réseau ne s'effondre pas. Quelle est la valeur de ce mégawattheure ? Elle est infinie. Elle est infinie. Elle est le coût d'une coupure, le coût évité d'une coupure. Et on peut imaginer, si on se souvient de la coupure qui a eu lieu sur l'est des États-Unis l'été dernier, ça coûte combien de couper 40 millions de New Yorkais et de gens de l'État de New York et de toute la côte est pendant 24 heures. Ça coûte des millions, des centaines de millions de dollars. Et bien donc le mégawattheure qui aurait permis au réseau de tenir, il vaut tout cela. Bien sûr, c'est pas dans l'intérêt général, mais c'est ainsi que ça se passe. Donc on constate que pour des raisons techniques assez simples, en réalité, le coût de l'électricité ne peut qu'augmenter avec le marché, et on le constate aussi de façon matérielle en regardant les exemples qui se sont passés. Mais ça n'a pas empêché la Commission de continuer dans la même direction, sans doute en considérant elle-même que c'était inéluctable, et c'est bien triste qu'on en soit là.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de François Soult. Enfin, François Soult, qui me semble, je sais pas, assez dogmatique, anti-libéral primaire, quelque chose de cet ordre-là, non ?
J'ai essayé, dans mon livre, de pas faire d'opinion politique, mais de faire un livre de technocrate. Moi, je suis un technocrate, et pour le coup, je l'assume sans trop de scrupules, parce que la technique, elle permet de constater que ça marche pas. Et bizarrement, l'idéologie, elle n'est pas là où on le croirait. Elle est du côté libéral. C'est de l'idéologie de dire que la concurrence en matière électrique va faire baisser les prix. C'est faux. C'est techniquement faux. Tout le monde le sait dans le secteur, mais personne ne l'assume. Donc, je ne crois pas être du côté des idéologues. J'ai vraiment fait un livre très technique en mettant de côté mes opinions politiques personnelles.
Mais en tout cas, vous n'êtes pas très, très moderne peut-être, parce qu'il y a quand même une nécessité de s'ouvrir au marché extérieur. C'est-à-dire que si je veux prendre pied dans un autre pays européen, il faut bien que j'ouvre un petit peu le capital d'EDF ou que je privatise EDF.
Ça, c'est une très bonne question. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans la question. Il y a la question de c'est quoi le marché électrique ? Après tout, pourquoi rester au sein des frontières ? Pourquoi pas avoir un beau marché européen ? C'est ce que dit la Commission. Elle dit qu'il faut libéraliser. Elle prévoit une directive pour réaliser le marché intérieur, hein, le beau marché intérieur. Moi, je suis très favorable. Je suis plutôt un Européen convaincu. Sauf qu'en électricité, l'électricité, elle ne sait pas voyager. Elle voyage très très mal. Il s'évapore beaucoup de courant sur les lignes de transport. Et puis, il y a un second point, c'est que pour transporter l'électricité, il faut planter les belles vallées alpines ou pyrénéennes, de magnifiques pylônes avec des câbles. Et bizarrement, les ours n'aiment pas, mais les bergers basques non plus, et les riverains non plus. Et pas seulement dans les zones un peu fragiles en termes d'environnement, mais à la frontière belge, c'est pareil, à la frontière allemande, c'est pareil. Donc, on ne sait pas faire voyager l'électricité pour des raisons techniques et on ne sait pas faire les interconnexions, ce qui permet de connecter une plaque électrique comme la France avec la plaque électrique allemande ou belge ou nos autres voisins, parce que ces grosses infrastructures, elles s'intègrent mal dans le paysage ou elles dégradent l'environnement. Donc on peut regretter ces résistances-là, mais elles existent. Ce qui fait que prétendre qu'il y a un marché intérieur électrique est une contre-vérité, c'est une escroquerie intellectuelle. Il y a ce que les électriciens appellent une plaque de cuivre. La plaque de cuivre continentale, c'est là où les électrons peuvent transiter de façon à peu près libre et fluide. C'est la France, la Suisse, une partie de l'Allemagne, et c'était hier la Belgique, sauf que depuis qu'on libéralise, les Belges se protègent des prix peu élevés de la France, et donc Electrabel a tendance à être sur un marché protégé. Donc il y a des congestions aux frontières avec la Belgique. Donc, prétendre qu'il faudrait créer un marché intérieur des 15 est absurde, économiquement. Et alors, des 25, j'en parle pas. Comment considérer que Chypre ou Malte peuvent être, ou les États baltes peuvent être dans ce marché intérieur? Ça ne correspond à rien de réel. Donc, c'est faux. Moi, je suis tout à fait volontaire pour être moderne. Ça n'oblige pas à être imbécile.
Mais, par exemple, sauf erreur de ma part, EDF a acquis un réseau électrique en Argentine ou un pays un peu comme ça, et c'était pour quoi faire alors? Parce que moi je pensais qu'au départ c'était pour avoir une espèce de taille critique, quoique j'ai jamais très très bien compris ce que ça voulait dire avoir une taille critique.
Non, c'est très juste, c'est très juste. EDF non plus d'ailleurs.
EDF
mais
pas compris.
Ils ont fait le développement. Il y a des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, c'est qu'on dit au monopole, vous allez cesser d'être en monopole et par conséquent, vous allez perdre des clients. C'est plutôt anxiogène pour tout organisme, quel qu'il soit. J'imagine même pour Radio Allègre d'avoir comme perspective de perdre des auditeurs. On va essayer de se développer ou de trouver des solutions pour éviter ça. Et c'est bien légitime. Or, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait un peu en dépit du bon sens. La démarche n'était pas absurde, ou en tout cas, elle est la résultante de la démarche absurde qu'est la libéralisation. Mais une fois que ça a été décidé, EDF était obligé de faire avec. Là où ça s'est fait dans un ordre très dispersé et de façon peu rationnelle économiquement, c'est que EDF s'est développé sur des territoires où il n'y a aucune synergie possible. L'Amérique latine, c'était prendre des risques, c'était des placements financiers risqués. Bon, un placement financier risqué, il peut rapporter plein de sous, mais il peut coûter la chemise qu'on a placée. Et c'est ce qu'a fait EDF. Ils ont perdu, je sais pas, plusieurs milliards d'euros en Argentine, plusieurs milliards d'euros au Brésil. Je crois qu'ils ont été obligés de passer en écriture ce qu'on appelle des write-off. Ils ont constaté qu'ils avaient perdu les milliards d'euros qu'ils y avaient investis. En Europe, c'est un peu différent. Il peut y avoir des synergies avec l'Allemagne, avec la Suisse, mais tout ce qui est péninsule électrique ou île électrique comme le Royaume-Uni, qui est mal relié au continent du point de vue électrique, ou l'Italie, qui est également mal relié, et on l'a vu avec la crise qui a eu lieu, la grande coupure qui a eu lieu au mois de septembre, d'août-août septembre de l'an dernier, on constate que des investissements peuvent être rentables dans ces états-là, mais il n'y a pas beaucoup de synergie non plus. Et donc EDF a fait ces investissements, qui sont plus des investissements financiers que des investissements industriels. Or, et c'est là le drame, c'est que ces investissements financiers ont été faits sur des bases financières absurdes, délirantes. EDF a payé trois fois le prix de ce que valait effectivement London Electricity, et quant à l'Italie et les investissements dans Edison, il y a plusieurs milliards d'euros qui ont été investis. Il y a des engagements, des options qui ont été prises, qui vont coûter et qui coûtent aujourd'hui très cher à EDF. Et là aussi, c'est des valeurs qui seront détruites, ni plus ni moins. Donc EDF, c'est des calculs un peu de comptable, mais mes estimations, c'est qu'EDF a au moins détruit de 7 à 8 milliards d'euros en faisant des investissements financiers absurdes, parce qu'ils ont surpayé, dans la mesure où tous les autres électriciens achetaient en même temps, ils ont surpayé une bulle spéculative, comme on avait connu la bulle spéculative dans les télécoms ou dans l'Internet. Donc oui, se développer à l'international, c'était sans doute nécessaire, c'était peut-être même inéluctable, puisque le processus absurde avait commencé. Le faire sans compter, comme l'a fait le management actuel d'EDF en disant c'est stratégique, la stratégie n'avait pas de prix, mais elle a eu un coût.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de François Soult. Et j'étais en pleine réflexion, là, parce que je me disais, mais est-ce que libéraliser, c'est forcément privatiser ? Enfin, est-ce que c'est deux choses complètement différentes, ou libéraliser, ça veut dire ouvrir à la concurrence ? Ça nécessite forcément de privatiser ?
Là, c'est une excellente question. C'est effectivement deux sujets différents, et pourtant très liés. On voit bien que la libéralisation conduit à s'interroger sur le statut public ou privé des opérateurs. D'ailleurs, la Commission européenne fait un mauvais procès actuellement à la France et à EDF en disant la Commission ne peut pas s'attaquer au statut public d'EDF parce que le traité, les traités européens disent explicitement qu'ils sont indifférents à la nature publique ou privée des opérateurs. La Commission est embêtée, elle ne peut pas violer clairement le traité, mais elle n'aime pas le public. Et donc elle attaque EDF en disant « Ah, mais quand même, puisque vous êtes public, vous êtes adossé à l'État, comme vous êtes adossé à l'État, vous avez des notations financières meilleures que vos petits camarades avec lesquels vous êtes en concurrence, et donc vous bénéficiez de conditions de financement sur les marchés financiers meilleures que les autres. Et donc vous allez rembourser la différence. » Donc on voit bien que le lien est fait entre libéralisation, vous êtes en concurrence, il faut des conditions égales de concurrence, et statut public ou privé des opérateurs, avec une forte tendance des autorités communautaires, en violation avec le traité, à pousser les États à privatiser. Donc même si les deux sujets sont différents, on voit bien le lien. Moi, ma réponse, c'est qu'il y a une part d'opinion politique, hein, à chacun d'estimer si il vaut mieux les opérateurs publics ou privés, mais en bon technocrate, j'aurais tendance à dire que, paradoxalement, il vaut mieux conserver à EDF son statut public. D'abord parce que ça a pas mal marché jusqu'à présent. EDF a plein de défauts, hein, notamment en termes de régulation. C'est très difficile de réguler EDF, c'est très difficile de les contrôler. Ils ont fait part d'une opacité à peu près complète pendant leurs 50 années d'existence. Mais on avait quand même la chance d'avoir un monopole vertueux, avec un prix de l'électricité qui n'est pas si élevé que ça, qui pourrait peut-être être encore un peu inférieur, mais qui est l'un des moins élevés d'Europe. Et revenir sur ce statut ne me semble pas possible. Moi, mon pronostic, c'est qu'EDF ne sera pas privatisé. D'ailleurs, les lois qui doivent privatiser EDF sont toujours annoncées et toujours reportées. Hein. On en est maintenant à la fin de l'année, mais on a été à la fin de l'année dernière, et puis idem, ça fait 2-3 ans qu'on reporte, pas sine die, mais on verra quand ça interviendra. Et je crois que ça ne peut pas intervenir, parce que produire de l'électricité, ça nécessite des investissements très très lourds. Et un opérateur privé, sans garantie de l'État derrière, ne va pas forcément le faire. Or, les garanties de l'État, c'est quoi ? C'est garantir des débouchés. C'est dire, vous faites l'investissement, mais au moins vous serez sûr des débouchés parce que vous aurez un monopole. Or, on est en train de libéraliser et de dire, vous n'êtes pas sûr des débouchés, ni en quantité, ni en qualité de client. Et comme vous n'êtes pas sûr de vos débouchés, ben vous allez avoir du mal à assumer les investissements. Et puis le dernier point, c'est que EDF est aujourd'hui dans une situation financière assez désastreuse, ce qui tient à ses investissements financiers à l'étranger qui étaient délirants, mais aussi au fait qu'aucun gouvernement n'est capable d'assumer une hausse des tarifs d'électricité, même quand les coûts augmentent. Aujourd'hui, il y a des coûts exogènes à EDF, c'est les coûts de ce qu'on appelle du service public de production de l'électricité. Pour développer l'éolien, développer les énergies renouvelables, on oblige EDF à acheter cette énergie-là à un prix donné. C'est un coût assez élevé, il faut compenser ce coût, et donc les coûts d'EDF augmentent, mais les tarifs continuent à baisser. Il y a un effet de ciseau qui fait que les résultats ne sont pas bons. Et comme l'État ne se rémunère pas, c'est un actionnaire qui plutôt bien pour cela, un actionnaire public qui n'exige pas un retour sur investissement à deux chiffres, eh bien si on devait privatiser, un actionnaire privé exigerait lui un retour sur investissement à deux chiffres, et il faudrait faire exploser les tarifs d'électricité. Je pense qu'aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, ne sera capable d'assumer cette évolution-là.
Mais alors si on privatise pas, libéraliser, c'est pas vraiment un problème, si ?
Ben, c'est un problème parce que ça va nous conduire à des coupures d'électricité, ça va nous conduire à des hausses de tarifs. Donc moi, en tant que modeste consommateur d'électricité, j'en ai pas envie, ça va me coûter plus cher pour une qualité de service moindre. Et s'il n'y a pas de coupure d'électricité, c'est qu'on aura, et c'est mon espoir, c'est qu'on aura re-régulé tout ça, on aura fait semblant de libéraliser pour re-réguler derrière. Ce qu'ont fait les Californiens, ça a un coût assez démentiel. Pourquoi ? Pour des raisons purement idéologiques qui ne sont pas pratiques.
Et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? On reste là les bras croisés en attendant donc juillet 2004, hein, ça sera en même temps que la Sécu, youpi, et juillet 2007 après ?
Oui, bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On se sent parfois un peu démuni, surtout quand tout le monde dit c'est inéluctable. Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est écrire ce bouquin pour dire que non, c'est pas inéluctable. Il faut pas considérer que c'est inéluctable. Je vais faire une seconde édition au bouquin pour tenir compte des événements qui se sont passés en Italie et aux États-Unis, de toutes ces coupures et de ces hausses de tarifs pour les analyser. Donc tout ça devrait sortir au mois de septembre prochain, et je crois qu'il faut se mettre en tête que non, ce n'est pas inéluctable. Et en changeant cette perspective et en demandant la charge de la preuve aux promoteurs de la libéralisation et pas en la faisant peser à ceux qui sont opposés à la libéralisation.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des partis politiques ou des syndicats qui montent au créneau ou c'est le vaste silence ?
Ce qui est triste dans cette affaire, c'est que ce sont les syndicats qui montent au créneau. C'est bien que les syndicats le fassent. Hein. AEDF, la CGT est très en pointe, FO est très en pointe, et je crois que les autres syndicats évoluent un peu dans le même sens. Mais on peut les accuser de corporatisme, ils ont intérêt à le faire. Et moi, ce qui me navre, là pour le coup, en tant que citoyen, c'est qu'aucun parti politique de droite, à la limite c'est pas forcément illogique, mais de gauche, et ça me peine davantage, ne réagit. Il considère aussi que c'est inéluctable, que c'est comme ça, qu'il y a des directives et qu'il est plus temps de revenir dessus. Ils auraient pu déjà commencer par ne pas voter les directives au Parlement européen alors qu'ils les ont votées, et ils auraient pu, lorsqu'il s'agissait de les appliquer, essayer de les transposer de manière différente, ou en tout cas d'exiger une renégociation au niveau communautaire à partir des expériences. On constate que ça ne marche pas. Ça ne marche nulle part correctement, mais à partir de là, il faut en tirer des conséquences.
Et renégocier, c'est quelque chose qui existe, qui serait faisable.
Et bien sûr,
Donc on peut le demander.
Voilà. Ah, je crois que rien n'est inéluctable, surtout pas les bêtises.
Donc c'était Des Sous et des Âmes, Antintélien, en compagnie de François Soult. Je vous rappelle qu'on pourra relire son bouquin parce qu'il a été épuisé, hein, c'est tellement il était bien, même pour moi d'ailleurs. EDF, chronique d'un désastre inévitable, c'est chez Kalman Levy. Autrement, on trouve plein de renseignements sur ce bouquin sur le net. Et autrement, il y a un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit regroupement qui s'est fait, qui s'appelle...
Résistance électrique et gazière.
Voilà, et on trouve plein de choses sur leur site. Voilà, à la semaine prochaine. Alors pour l'instant, mystère et boule de gomme sur la suite, mais il est bien possible que je vous repasse une excellente émission, pas due à moi, mais à l'invité. C'était avec Gérard Duménil, ça parlait de l'évolution du capitalisme sur les 30 dernières années. C'est absolument fondateur et à mettre en haut de toutes les émissions de Dessous, ça permet d'expliquer la suite. Voilà, à la semaine prochaine.